Bonjour, compte à rebours. Rebours, une émission que vous commencez à connaître et qui parle et parle encore, oui, puisque ce sont des histoires, des contes, des légendes, des nouvelles. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale Noël. Oui, j'en fais peu, mais des fois, ça tombe bien. Spéciale Noël, le générique n'était pas de Noël, mais il est très, très bien déjà. Mais par contre, toute l'émission sera de Noël. On va commencer par un sermon de Noël. Soyez honnête. Oui, soyez honnête. En fait, on en parle, êtes-vous honnête? Oh non, oui, bien sûr, oui, oui. Il y a quand même... Au sujet de l'honnêteté, il n'est pas juste question de savoir si on ramasse 50 euros qu'on trouve dans la rue sans le dire à son voisin, mais c'est aussi l'honnêteté avec soi-même. Il y a une espèce de flamme intérieure de sincérité. Et soit quand on trompe les autres, on se trompe soi-même finalement, et si on n'est pas intègre, ce feu n'est pas entretenu, finalement, on finit par s'éteindre. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Bon, mais il y en a qui peuvent pas s'empêcher de tricher, c'est comme ça. C'est aussi amusant, hein, faut dire. Par exemple, voyez tous ces RMistes, ces RSAistes, tous ces fraudeurs sociaux. Bon Dieu, c'est énorme la fraude sociale, vous savez, on en parle beaucoup, hein. 3 milliards, énorme. Énorme, 3 milliards d'euros par an. Et la fraude fiscale, ah oui, j'ai vu ça aussi, la fraude fiscale, là, le chiffre, c'est 60 milliards d'euros par an. Ah, ça c'est quand même plus qu'énorme, 20 fois plus. Ah oui, c'est le budget de l'éducation nationale, l'équivalent de ce qui est fraudé fiscalement. C'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Et quand on ramène ces chiffres à l'échelle d'un contribuable, puisque finalement c'est nous qui le payons, s'il y en a d'autres qui ne le payent pas, la fraude sociale c'est 6,80 € par mois, tandis que la fraude fiscale c'est 136,24 € par mois. C'est quand même curieux que souvent... On dénonce la fraude sociale, ceux qui abusent du système, alors que les gros, c'est 20 fois plus de sous. Sont-ils pourchassés, dénoncés, jugés et condamnés 20 fois plus que les autres? Mille Dieu, on a un Cahuzac tous les 10 ans. Et les autres, tous les autres, fêtent Noël tranquille. Mais bon, là, c'est la trêve des confiseurs, oh là, oh là, oh là. Ne parlons pas de sujets qui fâchent. Rétrospective sur la fête de Noël dans les années 50 et avant. J'étais récemment dans le village de Boulogne où il y a eu un collectage de la parole des anciens et voilà ce qu'ils ont écrit, le groupe qui a collecté à la suite de ces rencontres sur le Noël bien dans les années 50 et avant. Dans les années 50, les fêtes que l'on dit de fin d'année ne donnaient pas lieu à des réjouissances ni à des débauches de nourriture et de cadeaux. Le mode de vie de la population, qui était principalement paysanne, ne permettait pas que ces fêtes soient autrement que religieuses. D'ailleurs, on parlait de Noël et de Nouvel An, sans y ajouter le mot fête. on faisait pas la fête, c'était du sérieux, c'était du religieux. Pour commémorer la naissance du Christ, une dizaine de jours avant Noël, le curé de la paroisse et des deux jeunes filles composaient la crèche. Représentation de la nativité, une reproduction des tables miniatures était fabriquée avec de la mousse, des pierres, des statuettes de Marie, Joseph, le bœuf, l'âne et l'ange. L'enfant Jésus n'était déposé dans la crèche que le 24 décembre sur son petit lit de paille. Pour créer un fond de scène rappelant l'environnement de l'étable d'époque, on encadrait ce montage avec des genièvres, des branchages coupés dans les friches alentour. Il n'y avait pas de sapin, pas ici. D'ailleurs, dans les familles, les décorations de Noël avec sapin, guirlandes, étoiles et boules multicolores ne se faisaient pas. La préparation de Noël, fête religieuse, donc, consistait aussi une dizaine de jours avant le 24 à apprendre et à répéter des chants de Noël en vue des messes à venir. Le curé décidait quels chants seraient chantés, on se préparait et lorsque tout était au point, la nuit de Noël pouvait arriver, on était prêt. D'abord, venait la messe de minuit le 24 décembre. Toutes les familles, ou presque, se rendaient à pied à l'église. Et il y avait très peu de voitures, et par nécessité, les gens allaient à pied. L'église se remplissait, les chanteuses près du chœur, à gauche, les enfants tout devant, sur les premiers bancs. Ainsi, on les avait à l'œil. Les femmes se plaçaient plutôt vers l'avant de l'église, et les hommes dans le fond. Après une messe chantée d'environ une heure, tout le monde retournait chez soi et se couchait, tout simplement. Et pas de réveillon, pas de foie gras ou des bûches de Noël bien arrosées. Non, les gens avaient fait leur devoir de bons chrétiens, ils en allaient au lit. Et, lit dans lequel la maman avait glissé le moine avant de partir. Et qui était tout chaud, quel plaisir, après la marche de retour vers la maison en pleine nuit d'hiver, dans le froid, de se glisser avec délice dans un lit bien chaud. Cependant, avant le coucher, les enfants avaient mis leurs souliers devant la cheminée et espéraient, avec quelques craintes tout de même, que le Père Noël ne les oublierait pas. Les enfants croyaient au Père Noël, c'était aussi important que tout le reste à leurs yeux. Et le matin du 25 décembre, bien que couché, tard la veille, les enfants se réveillaient tôt et oh, quel miracle! Oh, pas des montagnes de cadeaux, juste une orange, une banane, un petit sac de boules en chocolat fourré de fondant bien crémeux et bien sucré. C'était un délice pour les enfants qui ne recevaient ces friandises qu'à cette occasion. Parfois, il y avait en plus un petit jouet, une poupée, un livre. Ouh! En ces temps-là, c'était un vrai bonheur pour les petits. On n'osait pas trop toucher, mais finalement, chacun prenait son trésor. Dans la matinée du 25, il y avait la messe de Noël à 11h. À nouveau, toutes les familles et les enfants rejoignaient l'église, puis chacun rentrait chez soi à pied, bien sûr. Le repas ce jour-là ne différait pas tellement d'un repas de dimanche ordinaire. Une soupe au pain ou au vermicelle, un plat de légumes, petits pois, haricots, pommes de terre, un rôti. Ou un poulet prélevé sur le troupeau de volailles de la ferme. Puis du fromage, en général du Cantal. Et puis un gâteau, mais pas sûr. Et il était l'heure de se rendre à nouveau à l'église pour assurer la messe des vêpres, vers 15h déjà. Et voilà, le jour de Noël était passé. Un jour presque comme les autres, sauf qu'il y avait tout plein de messes, de chants et de prières. Et quand on pense que maintenant, quelques décennies à peine après, Noël est la fête de la consommation effrénée, milady-vous, les temps ont bien changé.
Di nostre petit virage, ai man plan la libertà, e a n'importo qui nage, un si amuse spla verità. Dal picciu a la mametto, tutto lo mondo mera seu, a che giù si la placeto, di gusta pares de seu.
Caro muri, un giù fa che tra festo, lo mesinage, la giù ne sentesto, tutto village si mette tenente. Fa scherzo memes di nostre bel quartier, pur te lo vi, lo ritme s'accelero, tre scatre fio scumen su la danza, aven florit las plazos, las carrieros, e rucas terris de su vieisar.
zaket cantu de tero, avem tuzzo che nu scal, avem pas bezun de viero, bevem de vi al baral, ma cave un muscat grenace, cartageno de lustal, vida nugo, vidi range, blanchetto ancestral.
En plus d'acco, pure fare furios, se va tro mal, avem las farmacios, e se già mai calcun miro de ne.
Et maintenant, après du Bartas que vous venez de reconnaître, un conte de Noël. Et oui, un conte de Noël. C'est vrai que ça fait rire un conte de Noël. Non, ça c'est du conte de Noël. Qu'est-ce que c'est un conte de Noël ? Une histoire qui finit bien, où tout le monde s'aime et s'entraide. Oh oui, mais c'est pas comme dans la vraie vie. Quoi ? C'est pas comme dans la vraie vie. Et pourquoi donc ? Moi, je demande ça. Est-ce que c'est si difficile de s'aimer et de s'entraider ? Bon, posons-nous la question. Et en tout cas, ben oui, un vrai conte de Noël. Je l'ai déjà conté à cette antenne, mais je ne l'ai pas retrouvé dans les enregistrements. Et comme je voulais l'avoir enregistré, je le réenregistre. Ça s'appelle Noël à la cave. Et on y va tout de suite. Il était une fois un escalier de bois qui montait tout en haut d'un vieil immeuble. Et si on le prenait dans l'autre sens, il descendait bien sûr jusqu'à la cave. À la cave habite Pepo. Il n'a pas de maison et s'est installé là avec de vieux cartons et un matelas pour passer l'hiver. Mercedes aime bien Pepo. Elle habite au second étage avec son père, mais elle va souvent à la cave du vieux et lui porte un bout de quelque chose à manger parce que Pepo, il n'a rien. Il fait les poubelles. Ensemble, ils parlent, ils rient et surtout, ils écoutent le vieil escalier de bois qui craque. Oh, ça c'est la vieille pingre du rez-de-chaussée, dit Pepo. Écoute, écoute les marches qui craquent. Elles disent tous les jours à balayer ces fichus escaliers et dire que c'est bientôt Noël et que je serai encore seul avec mon chat. Crouc, crac, crouc, ouh ! Voilà le locataire du premier, un policier. Sous ses souliers cloutés, les marches disent « J'en ai assez de ce travail, toute la journée à respirer les pots d'échappement. Encore un Noël au milieu des embouteillages. » Ça, c'est le papa de Mercedes. Lorsqu'il rentre du travail, les marches craquent en disant « Oh, une journée finie, encore quelques sous de gagner. Peut-être à Noël, je vais pouvoir me payer la voiture dont je rêve. » Et oui, il rêve d'avoir une Mercedes. En attendant, il a donné ce nom à sa fille. Gronk, gronk, grink, oh, ça, pas de doute, c'est le dragon. Il habite tout en haut, au dernier étage. Sous ses grosses pattes, l'escalier dit « Oh, quelle fatigue, toujours à cracher du feu. Vivement Noël, que je me repose et surtout que je puisse enfin la manger. Elle doit être si tendre. » Mercedes est persuadée que c'est elle que le dragon veut manger. Qui ça pourrait être d'autre ? Il faut dire quand même que ce dragon, c'est pas un vrai dragon, avec des griffes, des ailes et une grosse bouche pleine de dents, non. Le dragon, c'est un garçon. On l'appelle comme ça à cause de ses cheveux. Toute sa tête est rasée, sauf une crête faite avec des cheveux en pointe et colorée en rouge. Une espèce de punk, a dit son père. En tout cas, Mercedes évite de le rencontrer dans l'escalier. Le dragon lui fait peur. Et quand elle remonte chez elle ce soir-là, ses petits pieds de fillette font sur l'escalier. Ah, j'ai passé une bonne journée avec Pepo. Pour Noël, moi je viendrai le voir et je lui porterai plein de surprises. Et Pepo qui écoute est content. Malgré le froid de la cave, il a chaud au cœur et s'endort heureux sous ses cartons. C'est le mercredi veille de Noël. Comme elle n'a pas classe, Mercedes est à la cave avec Pepo qui lui raconte des histoires. Cric-crac-croc, cric-crac, jamais les marches n'ont craqué si fort. La vieille, Madame Pingre, parce que c'est elle, frappe à la porte du policier. Ils parlent, puis ils descendent jusqu'à la cave. Le policier se plante devant Pepo en brandissant une écharpe rouge, trouée, toute sale et qui pue affreusement le poisson. C'est à vous, cet objet parfumé. On dirait bien, vous l'avez trouvé où ? Dans l'appartement de Madame Pingre, où, comme par hasard, un vol a été commis cette nuit. Monsieur Pepo, vous êtes en état d'arrestation. Les menottes du policier n'avaient jamais servi, elles étaient toutes neuves. Il passe au poignet de Pepo, qui le suit tête basse. Mercedes est triste, triste, mais elle ne peut rien faire. Pourtant, elle est sûre que ce n'est pas lui, le voleur. Elle se met à réfléchir. Voyons, ce n'est pas Pepo, ce n'est pas non plus la vieille, ni le policier, bien sûr. Mon père, il n'est jamais là, il travaille tout le temps. Il ne reste que le dragon. C'est lui, j'en suis sûr. Mais il faut le prouver, sinon Pepo restera en prison pour le réveillon. Et il n'y a qu'une solution. Aller fouiller dans l'appartement du dragon, tant qu'il n'est pas rentré. Mercedes monte les marches doucement. Les marches, d'ailleurs, en craquant, disent toujours la même chose. « Que j'ai peur, maman, que j'ai peur !» Arrivée tout en haut, elle tourne le bouton de la porte, de la poignée, mais bien sûr, la porte est fermée à clé. Et elle regarde à tout hasard, sous le paillasson, la clé est là. Alors, sans bruit, elle ouvre la porte et entre. Et lentement, méthodiquement, mais en tremblant de tous ses membres, Mercedes fouille partout. Les tiroirs, le buffet, les étagères, la chambre. Rien. Pas une trace d'argent volé. Elle voit alors la porte fermée de la salle de bain. Un bout de papier y est épinglé. Dessus est écrit en gros « Toi ». « Je te mangerai !» Ouh, Mercedes frissonne et recule. Non, il faut sauver Pepo. Bravement, elle pousse la porte de la salle de bain. Drôle d'odeur, c'est sombre. Et soudain, un cri affreux retentit. Des griffes lui attrapent le bras. Elle glisse et tombe sur le carrelage. Et là, le monstre souffle, hurle et la saisit par le dos. Elle est pétrifiée. Et c'est à ce moment précis que... elle entend « gronc, crunc, crunc » des pas dans l'escalier. Le dragon revient. Quand Mercedes ouvre les yeux, elle est devant une tasse de chocolat chaud, en face d'elle, un grand sourire, le dragon. « Alors petite, qu'est-ce que tu faisais avec ma dinde de Noël ?» D'un coup, tout s'éclaire. le monstre n'est qu'une dinde. C'est elle, et non pas Mercedes, que le dragon veut manger pour Noël. Pour la première fois, elle le regarde de près, ce dragon, et ma foi, bon, même avec sa crête, il a l'air plutôt gentil. Alors, Mercedes lui raconte tout. Elle lui explique ce qui se passait. Et il dit, il n'y a qu'une solution. Il faut en parler à Toutankhamon. Il sort sur le papier et se met à miauler de façon bizarre. Et quelques instants après, un gros chat noir fait son entrée dans la pièce. Je te présente Toutankhamon, le chat de Madame Pingre. Le dragon le pose sur la table et lui miaule toute l'histoire. Mercedes n'en revient pas. Non seulement ce dragon n'est pas méchant, mais en plus il parle la langue des chats. Toutankhamon file, puis revient quelques minutes après. Le dragon traduit ses miaulements. L'argent de Madame Pingre n'a pas disparu. Il est toujours à sa place entre deux piles de draps dans l'armoire. Cric, crac, croc, cric. La vieille dame est surprise en balayant les escaliers de découvrir une marche où est écrit à la craie « Pourquoi Pépo est-il en prison puisque ton argent est toujours dans l'armoire ?» Badang, badang, elle descend à toute vitesse chez elle, ouvre l'armoire et se met à crier de joie à la vue de ses économies. L'autre jour, elle s'était trompée de pile de draps. Mais au fait, pourquoi l'écharpe rouge de Pépo était-elle chez Madame Pingre? C'est une fois encore Toutankhamon qui donne la réponse. Une nuit, il l'a trouvée dans une poubelle et à l'odeur, il l'a prise pour du poisson. Il l'a ramenée chez lui par la jatière. Mais c'était immangeable. Madame Pingre va prévenir la police. Et Pépo est libéré aussitôt. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est le soir de Noël. Mercedes, les bras pleins de surprise, va voir son ami à la cave. Ils sont en train de tout installer pour la fête lorsque Madame Pingre arrive avec un gros gâteau pour se faire pardonner. Puis c'est le tour du dragon qui apporte la dinde qui l'a cuite. Le policier rentre chez lui avec du champagne pour fêter sa promotion, sans voir d'où viennent les rires. Et là, c'est le tour du père de Mercedes, tout heureux de sa nouvelle voiture. Et c'est ainsi que cette année-là, tout l'immeuble fête Noël à la cave. Et on s'amuse, croyez-moi. Le dragon, qui s'appelle en fait Robert et cracheur de feu, sort sa guitare et chante toute la nuit. Madame Pingre déclare qu'elle n'a jamais passé une aussi bonne fête et après le champagne, elle danse même avec Pépou. Très tard, lorsque chacun rentre chez soi, les marches craquent une dernière fois. Elles disent « Joyeux Noël à tous !»